Vous êtes sur RTL.
Il est 18h20, le premier invité de RTL Soir, Vincent Parisot.
Jean-Baptiste Dullion, le patron du RAID, bonsoir.
Bonsoir monsieur.
Et merci d'être avec nous en direct et en exclusivité sur RTL. Un jeune homme de 17 ans, armé, a donc retenu hier 4 femmes dans un bar PMU de Blagnac, près de Toulouse, pendant plusieurs heures. Vous le savez, elles ont été libérées dans la soirée et un peu plus tard dans la nuit, un peu avant minuit, le forcené a été interpellé. Un mineur de 17 ans au profil de petit délinquant, apparemment dépressif, il est en garde à vue. Dites-nous tout d'abord, Jean-Baptiste Dullion, comment s'est déroulée cette interpellation? Est-ce qu'il s'est rendu ou est-ce que vous êtes allé le maîtriser?
Alors on est allé maîtriser, mais tout en douceur, puisque ça fait, c'était l'issue de plus de 8 heures de négociation. Et donc, au final, il ne s'est pas rendu, mais nous l'avons pu l'interpeller donc tout en douceur,
sans violence,
voilà, sans violence, hein, puisque vu son profil, on pouvait se le permettre. Voilà. Mmh. Donc, ça a été une appréhension, mais tout en douceur.
Vous l'avez dit, hein, 8 heures de discussion, la nuit a dû être très courte pour vous. Pourquoi les négociations, d'ailleurs, ont duré aussi longtemps?
Parce que c'était typiquement une situation, un cas qui pouvait se régler avec la négociation. Donc on essaie toujours, nous, au niveau du RAID, et plus généralement au niveau des outils d'intervention, de solutionner les crises avec la négociation. C'est toujours préférable à l'intervention proprement dite. Et donc, des cas comme celui-ci peuvent être réglés via une négociation qui est très longue, qui est très difficile, mais qui peut aboutir à une reddition pacifique ou une interpellation en douceur comme hier soir. Et donc, c'est cette méthode-là qui a été utilisée.
Qu'est-ce qui était, j'allais dire, atypique dans cette prise d'otage? L'âge, tout d'abord, peut-être, un mineur?
Plus que l'âge, c'est le modus operandi, le process, le fait quand même, il faut quand même pas l'oublier, qu'il a pris des personnes en otage, c'est extrêmement grave, que lorsque les forces de police sont approchées, il a quand même tiré 2 coups de feu, hein, même si on a su après que c'était des charges à blanc. Donc il a vraiment provoqué une situation de crise, hein. D'ailleurs lorsque tous ces éléments ont été confirmés, j'ai décidé donc d'envoyer des renforts supplémentaires à la fois des antennes voisines, de l'antenne de Toulouse, mais aussi de Bièvre, avec des moyens particuliers et une équipe de commandement. Mmh. Voilà, donc il s'est vraiment mis dans une situation de crise, hein, grave. Au départ, on était vraiment très inquiets, même si au final, on s'est aperçu qu'il était plutôt bienveillant avec les otages. Néanmoins, il a quand même provoqué cette situation.
Mais lorsque vous entamez les négociations, est-ce que vous avez une idée du personnage? Est-ce que vous savez à qui vous avez affaire? Est-ce que vous essayez d'établir un profil?
Bien sûr, hein, c'est notre priorité. Alors au départ, on savait absolument pas sur quoi on allait. Et puis après, si vous voulez, via la consultation de fichiers, via le travail d'enquête de la police judiciaire, les environnements, on a rapidement pu établir un profil qui s'est affiné au fur et à mesure des heures, hein, grâce à la négociation. Et donc, c'est à partir d'un long moment qu'on a pu vraiment appréhender son profil, si tant est qu'on puisse le faire, parce qu'il avait quand même une psychologie un peu perturbée.
Et ça, vous l'avez compris assez vite, psychologiquement fragile.
Était très fragile, il s'est mis en danger, il nous a mis en danger, il ne faut pas l'oublier. On a vraiment craint un moment qui se met dans une situation de ce qu'on appelle le suicide by cops, hein, c'est-à-dire le suicide suite à une intervention de force de police. Et donc, c'était vraiment des éléments de dangerosité.
Quand les 4 femmes qu'il retenait en otage sont relâchées, j'imagine qu'à ce moment-là, la donne change complètement.
Complètement.
Et y compris dans le dialogue, on lui parle plus de la même manière.
Alors, pas tellement dans le dialogue, mais nous, dans la manière d'appréhender la crise, ça change tout. Puisque, bien sûr, la présence d'otages complexifie la situation énormément. Hein. Notre priorité absolue, hein, comme toutes les forces d'intervention dans le monde, c'est la préservation de la vie de l'otage. Donc, à partir du moment où les otages ont été libérés, la situation a changé. Mais la discussion a toujours été la même. Donc, on est resté au contact et on a essayé, on voulait absolument avoir une reddition pacifique et une interpellation, si elle n'était pas possible, au moins une interpellation en douceur. Donc, le contact a été maintenu en permanence, et je tiens à rendre hommage d'ailleurs à l'équipe négociation du RAID, au négociateur du RAID de Toulouse qui a bossé dur pendant plus de 8 heures, et ça a été vraiment difficile.
Comment ça se passe d'ailleurs dans la négociation? Est-ce que on alterne vous dites une négociation douce et puis des moments un peu plus fermes où on lui fait peur Alors, sans dévoiler trop de secrets, voilà, évidemment.
Mais... Je ne peux pas trop rentrer dans les détails, c'est un enchaînement de situations. Hein. Bien entendu, effectivement, on utilise soit on essaie d'être conciliant, après on est plus dur. C'est tout un process qui a été mis en place par la cellule de négociation du RAID, hein, donc depuis maintenant un bon moment, hein, puisque la cellule a été créée suite à l'affaire de Human Bomb, à l'école maternelle Charcot de Neuilly. Et donc, ils travaillent tous les jours sur ces process, et donc c'est tout un travail qui est fait en fonction de la réaction, de l'attitude de l'individu, et donc là encore, ça a bien fonctionné.
Il a toujours le même interlocuteur au bout du fil.
Toujours.
Ouais. Un seul toujours. Négociateur.
Il n'y a pas de règles. Enfin, il y a des règles. Il y a des règles qu'on essaie de suivre. Après, si on sent qu'il peut y avoir une plus-value à faire intervenir quelqu'un d'autre, on le fera. Mmh. C'est-à-dire qu'on ne se fixe pas de limites. Néanmoins, il y a des grands principes d'action.
On le sait maintenant, il a pu diffuser, au moins pendant quelques instants, des images, des vidéos de sa prise d'otage sur Facebook et sur un autre réseau social. Est-ce que pour vous, c'est un atout? Ou est-ce que c'est un problème?
Alors, un petit peu des deux, mais pour nous, ça a été surtout un atout parce qu'on a pu se rendre compte de la configuration des lieux, parce qu'il avait tiré les rideaux. Donc, on savait pas du tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Et il nous disait qu'il avait piégé donc la pièce. Et on a pu voir aussi le positionnement des otages. Donc, pour nous, ça a été plus un atout qu'autre chose. Ouais.
À l'arrivée, vous l'avez dit, plus de 8 heures de discussion, c'est fréquent, ça, dans ces affaires qui ne sont pas des affaires ni de terrorisme, ni politique, ni même un braquage.
Oui, vous avez tout à fait raison de le souligner. Hein. Il faut savoir qu'on intervient donc chaque semaine sur les 4 forcenés ou des prises d'otages qui sont moins médiatisés, hein, à travers toute la France. Et régulièrement, les négociateurs du RAID donc, interviennent pour essayer d'avoir des redditions pacifiques. Donc, c'est des cas qui se produisent très régulièrement, qui nous permettent de nous maintenir donc, vraiment en condition et qui peuvent aboutir comme, des fois, ce n'est pas le cas. Et dans ces conditions, on privilégiera une tactique d'intervention.
Merci de toutes ces explications très éclairantes. Jean-Baptiste Dulion, patron du RAID, merci d'être venu ce soir sur RTL.